France Inter, le 18-20.
Sur le papier, on peut tous convenir que ce qui manque, dès lors qu'on voit un médecin et un spécialiste ou plusieurs, c'est que l'un a besoin de l'historique de l'autre et que si tout était sur le même dossier numérique au même moment, ce serait finalement bien plus pratique. Ce dont on peut convenir aussi, c'est que les bilans opératoires, les analyses, là aussi, quand ils sont disponibles à tous ceux qui vous suivent et au même moment et instantanément si c'est possible, c'est quand même nettement plus pratique. Également, les informations circulent, la collaboration entre les praticiens est plus fluide et c'est à ça que ça sert, donc ce carnet de santé numérique que vous pouvez ouvrir depuis le début du mois, ou dossier médical partagé qui, rappelons-le, et on le rappellera, est non obligatoire. Ça fait des années que tout le monde y songe, sans le faire au bout du compte, à ce carnet, et il doit bien y avoir une raison à ça. Mais concrètement, donc, ce carnet de santé numérique, qui peut l'abonder? Qui en a les codes? Quelles informations peut-on mettre dessus? Est-ce qu'on doit tout mettre dessus? C'est quoi la différence entre le dossier patient que s'échangent naturellement les médecins et ce nouveau carnet de santé-là? Voilà des questions auxquelles on essaiera de répondre avec vous ce soir. Pourquoi certains médecins sont-ils sceptiques? Qu'est-ce qui manque pour que tout ça nous paraisse finalement plus naturel à tous? C'est à vous de nous le dire et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Jean-Louis, bonsoir, c'est vous le premier et soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci. Eh bien, j'ai mon dossier médical partagé depuis le 30 octobre. Un peu par hasard, je suis allé chez la pharmacienne qui m'a dit « je peux vous le faire ». Elle avait un petit terminal, elle a rentré mon adresse mail et j'ai signé son petit écran. Et voilà. Et après, je vais chez mon médecin qui me dit « bah moi, j'ai aucune info », venant de la caisse primaire d'assurance maladie notamment. Donc voilà, il faut quand même que les professionnels de santé fassent preuve de bonne volonté, mais aussi les fonctionnaires, disons, du ministère, de la CNAM, et des ARS, etc., et que tous ces gens-là qui ont quand même, vous savez, eu beaucoup de mal, je l'ai vécu de l'intérieur parce que j'étais administrateur de ma CEPAM et de l'hôpital du Mans, et donc toujours de la méfiance un petit peu entre les uns et les autres, il faut dépasser ça, il faut arrêter, mais il faut y mettre de la bonne volonté, mais il faut dépasser ça parce que d'abord le DMP, ça sera un outil qui permettra certainement de faire des économies, hein, et puis ça sera un instrument de sécurité pour les Français. Après, j'ai une petite question, parce que sans doute vous avez des spécialistes en studio.
Sans doute. Tant
qu'on n'a pas si on n'a pas sa carte vitale sur soi et que on est emmené aux urgences pour une raison ou pour une autre, est-ce que les médecins pourront avoir accès au dossier médical partagé pour voir les allergies ou les médicaments qu'il ne faut pas utiliser ou, vous voyez, il y a énormément de questions autour du DMP et c'est vraiment un dossier intéressant, mais maintenant il faut qu'on avance parce que on est en retard. Quand on voit des reportages ici ou là sur ce qui se passe dans d'autres pays européens aussi développés que nous, c'est quand même quasiment scandaleux qu'en 2018, avec tous les outils informatiques qui existent sur tous les sujets, que pour la santé, on soit encore à la traîne.
Eh ben merci Jean-Louis d'avoir bien balayé. On voit bien que c'est un professionnel qui parle. Ça fait beaucoup de questions et tant mieux, ça nous permet de démarrer ce téléphone sonne ensemble. Donc sur le fameux DMP, dossier médical partagé, parce que j'imagine que tout le monde va l'appeler par son petit nom au bout d'un moment, ce dossier médical. Bonsoir Nicolas Revel, directeur général de la CNAM. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Et puis Véronique Joulia est là aussi, spécialiste santé de France Inter. Bonsoir Véronique. Bonsoir. On va prendre les questions l'une après l'autre. D'abord, ce que nous dit Nicolas Revel, ce que nous dit Jean-Louis, c'est qu'il l'a rempli très simplement, parce que ça, effectivement, c'est vraiment une question de clic, sauf que vraisemblablement, il n'y a que son pharmacien qui était au courant que l'info, pour l'instant, n'est pas passée. Qui sait? Est-ce que si je le remplis là, tout de suite, devant nous, mon DMP, mon dossier médical partagé, si je vais chez le médecin dans la foulée, il saura de quoi je parle et il le remplira aussi?
Alors... D'abord, l'élément nouveau, puisque nous avons relancé ou lancé le DMP la semaine dernière. Après, pour ceux qui s'en souviennent, cet auditeur a fait un petit peu d'histoire. 12 années où on parlait du DMP,
qui était
un serpent de mer, 14 ans. Et en 14 ans, il y avait eu pour toute la population française seulement 500 000 DMP ouverts. Et la moitié de ces DMP étaient vides. Il n'y avait
dossier médical partagé.
Alors DMP, dossier médical partagé.
Donc pour que les gens s'habituent.
La loi, le Parlement nous a demandé de reprendre ce dossier en 2016, nous, l'assurance maladie. Donc après avoir écouté les médecins, les patients, les hôpitaux, nous avons relancé un dispositif qui permet d'abord d'ouvrir très facilement son DMP. Ouais. Avant, s'il y avait très peu de DMP ouverts, 500 000, c'est parce que ça n'était que pour faire vite les médecins qui, en face à face avec leurs patients, pouvaient ouvrir les DMP. Or, les médecins ont autre chose à faire que d'ouvrir les DMP, on le sait. Donc là, on peut l'ouvrir en pharmacie.
Bon, on peut l'ouvrir parce qu'il faudra bien qu'ils le remplissent aussi.
On peut l'ouvrir par Internet.
On
peut l'ouvrir par Internet. On peut l'ouvrir aussi dans les accueils de caisse. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'information dedans. L'élément nouveau, c'est qu'aujourd'hui, quand on ouvre son DMP, non pas dans la seconde, mais 48 heures après, l'assurance maladie injecte dans le DMP 2 années de données médicales, puisque nous connaissons la consommation de soins des patients, nous la remboursons, et donc nous la restituons de manière médicalisée. Quel médicament avez-vous pris? Quel médecin avez-vous vu? Quel séjour hospitalier avez-vous eu? Quel examen avez-vous subi?
Donc ça veut dire...
Ça rentre dehors. Et le médecin, lui, pour qu'il s'en serve, il faut qu'il accède à cette information.
Alors attendez, une chose après l'autre, Nicolas Revel. Est-ce que ça veut dire, du coup, que même au démarrage de l'ouverture, je dois... À partir du moment où je l'ouvre, ça veut dire que je suis d'accord pour que 2 ans de mon histoire médicale soient inscrites à l'intérieur. On est d'accord avec ça?
Oui, ça c'est dans le contrat. C'est quand vous ouvrez le dossier médical partagé, vous l'avez très bien dit au début, c'est une décision, on n'est pas obligé de le faire. Une fois qu'on le fait, on le fait pour qu'il y ait de l'information qui arrive. Et plutôt que d'attendre que les professionnels de santé vertent l'information, on va leur demander, c'est bien que d'emblée, il y ait déjà un historique d'information qui est tout de suite une couche minimale utile. Quand vous arrivez en urgence et qu'un médecin hospitalier veut vous prendre, ça l'intéresse de savoir ce que vous avez comme médicament en cours de traitement.
Donc charge pour la CNAM de remplir ses premiers papiers. Pardon Véronique Julia, juste une seconde. Jean-Paul Hamon, vous, si moi je vais vous voir là en disant bah, j'ai ouvert mon dossier médical partagé, est-ce que vous vous dites, oulala, attendez, moi je suis pas prête? Ou alors est-ce que vous dites, bon bah ok, on commence à travailler dessus?
Alors on peut effectivement commencer à travailler, et je dois dire que depuis que il est prévu qu'on vienne à l'émission, j'ai quand même regardé d'un peu plus près. J'avais alimenté une fois le DMP, et puis je me suis dit, bon, j'avais laissé tomber, donc j'ai essayé d'ouvrir. J'ai ouvert un DMP pour un membre de ma famille. Et donc, j'ai essayé de mettre dans le DMP, je peux vous dire, j'ai essayé de mettre des pièces qui m'avaient été envoyées par Pericollect, par Apicrypt, la messagerie sécurisée, et j'ai découvert qu'il fallait que je transforme ça en courrier. Donc j'ai intégré ça en courrier, il a fallu que j'aie un petit peu de temps. Et puis là, aujourd'hui, j'ai encore regardé cet après-midi pour voir. Alors j'ai rajouté le courrier, j'ai fait un vrai volet de synthèse.
Parfait.
J'ai fait un vrai volet de synthèse. Et je peux vous dire que j'ai passé du temps pour mettre ce qui est vraiment utile pour les allergies, les intolérances, le traitement en cours,
les antécédents, etc. 4 minutes 47.
Ouais. 4 minutes 47, ouais. Quand même, 4 minutes 47.
Bah, attends, c'est de l'argent.
Après m'être entraîné quand même le dimanche précédent. Et j'ai vu arriver... l'historique des remboursements, dont on vous dit que c'est les 2 ans. Et là, la surprise, je n'ai vu que des médicaments. Je n'ai pas vu la coloscopie qui avait été faite, j'ai vu aucune trace de coloscopie, aucune trace de fibroscopie, aucune trace d'hospitalisation de jour, qui quand même ont dû vous être transmettre au remboursement. Je vous le montrerai si vous voulez, si vous venez après, vous venez passer au mon cabinet, je vous montrerai le dossier, vous verrez que je ne raconte pas d'histoire.
Ah, il doit y avoir tout donc, l'historique sécu donc, des examens.
Donc, si, mais l'historique des remboursements, attendez, c'est un empilement de remboursement. On voit les médicaments qui ont été donnés, on ne connaît pas les doses.
Mais attendez, Jean-Pierre Hamon, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est est-ce que c'est mal fichu pour l'instant ou c'est pas pratique pour moi? Ou les deux,
Attendez, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que vous savez, j'ai envie de paraphraser Francis Blanche qui disait qu'est-ce qu'ils ont ces marins, quelle habitude ont les marins de vouloir toujours faire des phrases, mais quelle habitude ont les ministres de vouloir faire des effets d'annonce sur le DMP. Ça date de Douste Blasi qui nous annonçait 3,5 milliards d'économies. Xavier Bertrand qui nous promettait le DMP en 2007 quand on s'en allait pas avoir les Jeux Olympiques en 2012. Et là, on nous promet 40 millions de DMP dans les 5 ans. C'est vous, c'est Agnès Buzyn et son complice ici présent qui ont annoncé ça il y a quelques jours. Donc si vous voulez, alors qu'on n'est pas prêt, les mêmes questions qui se posaient en 2004 se pose toujours maintenant, c'est-à-dire que les logiciels, moi c'est pas
ça,
pratique
voilà,
pour
c'est,
moi.
C'est ça dont je voulais, pratique, c'est voilà. Là je voulais vous emmener. On n'est pas prêt, ça veut dire quoi? On n'est pas prêt sur le fond ou sur la forme? Parce que, pardon Jean-Paul Hamon, mais si c'est juste sur la forme qu'on n'est pas prêt sur une histoire d'ajustement de logiciel, excusez-moi, alors, j'ai envie de dire, c'est pas très grave.
C'est grave,
ça va s'arranger,
si, c'est grave, parce que en 2004, quand moi, j'ai eu la chance de faire partie du début de l'aventure du DMP, donc je peux vous dire, j'y étais, parce que vous n'allez pas me faire passer pour quelqu'un de ringard opposé au progrès. J'ai déployé une messagerie sécurisée dans mon secteur pour récupérer tout ce qui arrivait, c'est-à-dire la biologie, les comptes rendus de cardio, les comptes rendus de chirurgien. Et quand un chirurgien opérait un de mes patients, quelques jours plus tard, je recevais l'histologie de ce qu'il avait enlevé. Donc, si vous voulez, j'étais là. Donc, en 2004, j'ai dit à Douste Blasi, il faut réunir les éditeurs de logiciels avec des médecins qui savent utiliser l'informatique, mais pas des pros de l'informatique, qui vont vous dire ce dont on a besoin, et mettre quelque chose qui soit aux normes pratiques, qu'on puisse alimenter facilement le DMP et qu'on puisse se consulter rapidement. Rien de tout ça n'a été fait, c'est du bricolage, et là, on en est toujours au stade du bricolage. Et là, il faut effectivement... Alors, les choses ont changé. Hein, les gens sont habitués aux messageries maintenant, mais il faut vraiment le faire. Ne pas nous laisser ça.
Juste Nicolas Revel, pour répondre, parce que je voudrais vraiment qu'on retourne aux standards aussi, c'est le principe.
Un mot, parce que ce que dit Jean-Paul Hamon correspond à son expérience de ces derniers jours. Simplement, quand l'assurance maladie a repris il y a 2 ans ou 3 ans le DMP, la première chose qu'on a faite, c'est demander aux médecins ce qu'ils voulaient. Et ce que nous ont demandé les médecins, c'est évidemment que le DMP soit accessible au travers de leur logiciel, puisqu'ils utilisent au quotidien le logiciel. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit à tous les éditeurs, il y en a 60 hein, des éditeurs qui équipent les médecins au quotidien, de dire il faut que le DMP...
Vous vous dites qu'il y en a 70% de logiciels métiers qui sont adaptés,
oui.
C'est ce que vous
donc
dites.
Donc il y a aujourd'hui 69% des médecins qui ont un logiciel, comme on dit, DMP compatible. Les différents éditeurs l'ont fait chacun à leur manière. Donc il y a certains qui font des produits, moi, que j'ai vus, qui sont absolument remarquables de fluidité. Celui du docteur Hamon, que je connais, je ne vais pas citer le nom du logiciel du docteur Hamon, il n'est pas si mal. Simplement, comme il me l'a dit lui-même, le docteur Hamon, il y a un petit sujet de paramétrage de son logiciel pour que ça marche bien, et je me suis engagé à lui envoyer un conseiller informatique service de la caisse primaire en CRM pour l'aider à paramétrer son logiciel. Mais son logiciel, aujourd'hui, il est DMP compatible. Donc on ne peut pas nous dire que ce travail-là n'a pas été
DMP
fait.
Compatible,
mais
on
J'aimerais qu'on avance et que on parle aussi à un moment des patients, parce que, pardonnez-moi, vous êtes en train de me parler de vos histoires de logiciels informatiques, et moi, patiente, j'ai presque envie de dire... Docteur, je suis désolée, mais adaptez votre logiciel.
Oui, mais
allez-y,
c'est quand même
Véronique.
Essentiel pour le patient, parce que si le médecin ne peut pas remplir le DMP, le dossier restera vide. Je précise quand même que pendant 18 mois, on a expérimenté le DMP dans 9 départements en France, et que le résultat, c'est qu'il n'y a même pas 20% des médecins qui l'ont alimenté. C'est dire quand même qu'ils ont dû rencontrer quelques difficultés à rentrer ou à faire correspondre les logiciels et le DMP. Je pense qu'il y a un souci.
Ce point est juste, c'est-à-dire qu'on a effectivement, au bout de 18 mois, dans ces 9 départements, ce résultat que moi je trouve plutôt encourageant. Parce que si on n'a que 20% des médecins qui l'ont alimenté, c'est parce qu'ils n'avaient pas non plus en 18 mois beaucoup de leurs patients qui avaient ouvert un DMP. Parce qu'au moment où nous avons fait cette phase pilote, on ne pouvait pas ouvrir en pharmacie et on ne pouvait pas facilement ouvrir par Internet. Je pense que pourquoi on dit 40 millions de DMP ouverts et pourquoi il faudrait que nous soyons tous derrière cet objectif ? Il faut être tous d'ailleurs l'objectif d'avoir en gros des DMP déployés sur la population générale. Parce que quand vous aurez beaucoup de DMP ouverts, les hôpitaux, les médecins alimenteront les DMP et nous serons dans un processus vertueux et positif.
Et c'est en faisant on verra en tout cas si ça marche. Pas forcément avec vous, Elisabeth, bonsoir.
Oui.
Et on vous écoute, allez-y.
Eh bien, moi je suis d'accord pour... Enfin, avec le monsieur qui a parlé en disant que c'était pas au point, parce que je pense pas que ce soit fort utile pour l'instant. Ou alors, mon médecin traitant a déjà le système. Parce que lorsque je vais le voir, mon généraliste, il me demande ma carte vitale, il la met dans son ordinateur, et là, il a tout mon dossier depuis une dizaine d'années. Et quand il m'envoie à l'hôpital de ma ville pour un examen complémentaire, ou la fois où j'ai été aux urgences, où j'étais très bien reçue et soignée, j'avais mes papiers sur moi et ils ont pu décliner tout mon dossier depuis que je suis dans cette ville. Évidemment, étant une personne âgée, j'ai toujours sur moi certains examens, l'échographie cardiaque, enfin certains, et puis ma carte vitale et ma carte de mutuelle, parce que si jamais effectivement il y a quelque chose, et que je suis inconsciente, ils ont qu'à regarder dans mon sac, il y a déjà beaucoup de choses. je crois que c'est sans doute, ou bien c'est lié parce que c'est une petite ville, mais les gens communiquent. Parce que quand les médecins de l'hôpital me reçoivent, me font des examens, eh bien, ils en rendent le compte-rendu à mon médecin traitant.
Et merci, Elisabeth, pour votre témoignage. Jean-Paul Hamon, pour être didactique, c'est quoi la différence entre le dossier médical partagé et la carte vitale ? Est-ce qu'il y a des informations sur ce dossier médical partagé qu'on ne trouvera jamais sur la carte vitale et inversement ? Et du coup, question subsidiaire, pourquoi on n'a pas tout simplement mis le dossier médical partagé sur la carte vitale ?
Alors, parce que la carte vitale, elle date de 92. J'ai fait partie des premiers utilisateurs de la carte vitale. Hein. Et en fait, pour les patients, qu'est-ce qui est utile aux patients ? C'est que le médecin qu'il prend en charge connaisse son identité, ses allergies, ses intolérances, son traitement en cours, une ligne de vaccination, une ligne d'antécédents. Avec ça, on peut prendre en charge correctement et de façon sécurisée n'importe quel patient. Ça, c'est essentiel.
Et mais je pardon, s'il y a des radios qui ont été faites avant, par exemple, et autant pas les refaire. Donc, si elles sont déjà dans le dossier, on ne les refait pas.
Mais ce qui sert, c'est ça. Ensuite, si on veut éviter la redondance, comme de prescrire une radio qui a déjà été faite, etc., il ne faut pas que le DMP soit un sac dans lequel on empile les trucs et qu'on ne peut pas retrouver. Il faut une vraie indexation, c'est-à-dire que scanner, on le trouve, scanner cérébro-encéphalique, on le trouve, si c'est une angiographie, on la trouve, etc. Et que ce soit simple. Ensuite, pour alimenter ce volet de synthèse qui est essentiel à la prise en charge des patients, il faut que le médecin traitant prenne le temps de le mettre et surtout qu'il le mette au bon endroit. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je ne peux pas le mettre au bon endroit, je le mets dans une pile. Et puis, si je mets une coloscopie par-dessus, il y aura la coloscopie
vrai,
par rapport à
Jean-Paul Hamon.
Mais non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que vous devez entendre.
Mais vous dites que c'est chronophage de le remplir et que donc vous allez perdre du temps et que ça va être encore de l'administratif.
C'est pour ça qu'il doit entendre. C'est pour ça que le directeur doit entendre que les logiciels ne sont pas prêts et que ce boulot-là doit être fait. Vous devez imposer aux éditeurs de logiciels de le faire et que vous devez mettre à disposition des médecins gratuitement les mises à jour des dossiers médicaux pour qu'on puisse les alimenter correctement. Ça, c'est la condition sine qua non. Si vous ne le faites pas, la parole est à la défense.
Mais aujourd'hui, il y a quoi dans une carte vitale quand un médecin la met dans le boîtier ?
La carte vitale, ça comprend l'identité, le régime d'appartenance, la caisse primaire.
C'est administratif.
Administratif, et c'est un outil qui aujourd'hui permet d'être remboursé.
C'est ça. Mais vous ne savez pas qu'il y a une allergie au pollen en ouvrant la carte vitale ?
Il n'y a aucune information dans une carte vitale, information médicale, j'entends. D'où l'intérêt d'avoir un dossier médical partagé. Un dossier médical partagé qui puisse être, je dirais, pas uniquement lié à une carte physique, on peut ne pas avoir sur soi. Mais quand on arrive aux urgences, si on se souvient de son numéro de sécurité sociale, on rend possible...
Il ne faut pas être inconscient. Non mais sérieusement, je veux dire...
Et si on connaît le nom ensuite, s'il y a quelqu'un qui connaît le nom, on peut retrouver ensuite... il faut un minimum d'informations pour pouvoir retrouver le DMP du patient. Si on ne connaît ni son nom, ni sa date de naissance, ni son numéro de sécurité sociale, c'est évidemment important. Mais simplement, quand vous dites juste, docteur Hamon, que le DMP c'est un machin complètement bordélique où tout est rangé n'importe comment. Vous avez, quand vous ouvrez un DMP, 8 rubriques. La rubrique des actes d'imagerie, la rubrique des médicaments. Et puis, il y a une superbe rubrique qui s'appelle synthèse, où on ne retrouve que les fameux volets de synthèse médicaux dont vous parlez.
Ça, c'est le vôtre.
Et donc,
je vous entends, excusez-moi, mais moi, je suis patiente potentiellement. Oui. Vous ne parlez que de vos logiciels, vous parlez de trucs administratifs qui marchent ou qui ne marchent pas.
Attendez. Vous avez parlé du volet de synthèse.
Et j'entends pas parler des patients, et j'entends pas ce qui est bon pour les patients.
Si je peux me permettre et reprendre à ce moment-là. Ce qui est important dans le dossier médical partagé, c'est que tous les patients ne sont pas comme cette auditrice que nous avons entendue à se promener en permanence avec leur histoire médicale dans son sac et les résultats. Donc c'est quand même.
Enfin, elle dit pas que ça quand même. Elle dit aussi que son médecin traitant et l'hôpital ont des dossiers qui arrivent.
Non,
à ce
mais c'est vrai du médecin.
C'est pas toujours le cas.
C'est vrai du médecin traitant. Le médecin traitant, quand on est suivi par celui-ci, il a votre information médicale. Mais les patients, ils consultent d'autres médecins. Ils vont dans des établissements. Oui. Et là, les ruptures d'information, elles existent. Voilà. Et le DMP est une vraie réponse à cela. Deuxièmement, tout le monde n'est pas archiviste. Tout le monde ne se promène pas en vacances ou ailleurs avec ça. Et donc, on peut avoir, si on fait ce choix, accès facilement à son histoire médicale et à son présent médical.
Véronique, et on retourne au standard.
Un urgentiste me parlait d'allergie au curare, par exemple, quand vous appelez le SAMU et qu'il faut vite intervenir. Ça peut être très précieux de connaître une allergie au curare en ouvrant le dossier médical partagé.
Cela dit, les urgences,
il faut quand même notifier que vous êtes d'accord pour qu'on ouvre en urgence votre DMP, si on vous prend en charge en urgence, parce que c'est pas automatique pour des questions de données personnelles.
On vous pose cette question au moment où vous l'ouvrez, on vous pose la question pour savoir si vous êtes d'accord, si vous étiez inconscient qu'un médecin urgentiste puisse accéder à ça.
Donc, il faut bien cocher la case en s'inscrivant, en disant « je veux bien qu'on ouvre mon DMP en cas d'urgence ».
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de code, en fait, pour entrer dans le DMP ?
Ah si.
Mais alors, qui fait le code ? Comment ça se passe ?
Qui fait le code
en cas d'urgence ?
Ce qu'il faut, c'est que pour accéder à un DP, il faut connaître le patient. Il faut savoir comment il s'appelle pour pouvoir retrouver son dossier médical partagé. Mais la règle absolue, c'est que celui qui accède à un dossier médical partagé, c'est un soignant. C'est celui qui soigne. Donc, il faut qu'il ait d'abord une carte qu'il identifie comme professionnel de santé. Il doit requérir l'accord du patient pour consulter son DMP. Et c'est vrai que parfois, on est inconscient, on arrive aux urgences. Et si on a coché cette case qu'on appelle bris de glace en ouvrant son DMP, le médecin urgentiste accède directement au DMP dès lors qu'il identifie le patient. On connaît son nom, son identité, et donc on peut retrouver le dossier.
Dominique, bonsoir.
Oui, bonsoir. J'ai 70 ans, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai ouvert, après une galère, mon DMP. Ma question de fond, je vais voir, par exemple, je vais voir mercredi mon médecin généraliste, parce que j'ai eu plusieurs interventions médicales. Je vais aller le voir avec un document papier sur lequel il y a mon code d'identification, mon mot de passe. En Espagne, au Danemark, le dossier médical partagé, c'est une carte avec une puce. Mmh. On a tous la place dans un portefeuille d'avoir une carte avec une puce pour avoir un dossier médical partagé accessible par tous les gens du monde de la santé. Et pourquoi ne pas tout mettre ça sur la carte vitale, sachant que sur la carte vitale, je me suis renseigné plusieurs fois, il n'y a que les médicaments.
Alors en effet, parce et même que, pas, donc on vient de l'entendre, il n'y a que de l'administratif. Merci beaucoup Dominique, parce que ça nous permettra de donner quelques précisions. Nicolas Revel, d'abord.
Juste d'un mot, quand vous arrivez chez votre médecin, en fait, pour que celui-ci accède à votre DMP, vous lui donnez votre carte vitale. Et une fois qu'il a mis sa carte vitale dans son ordinateur, il accède à votre dossier médical partagé. Vous n'avez pas besoin de lui donner les codes et les mots de passe. Ça, c'est quand vous, patient, vous voulez tout seul, chez vous, consulter votre dossier médical partagé.
Jean-Paul Hamon, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, c'est sûr que dans l'idéal, l'idéal serait d'avoir sur la carte vitale accès à ce que j'appelle, moi, le volet de synthèse, c'est-à-dire qui tient en 13 lignes. Hein. Vous avez les allergies, les intolérances, le traitement en cours, une ligne de vaccination, une ligne d'antécédents, ça sécurise la prise en charge du patient. Et nous, ça nous suffit généralement. Le problème du DMP, c'est vrai que on a connu les expériences malheureuses de 2004, mais c'est vrai que depuis 2004, heureusement, les choses ont changé. C'est-à-dire que moi, en 2002, j'avais installé un proxy qui était à la sortie de la PHP, qui cryptait tout ce qui sortait et qui décryptait tout ce qui rentrait. Hein. Personne ne l'utilisait, sauf trois services. C'est-à-dire qu'il y avait un service à Béclair, la réanimation, qui, je savais quand un malade sortait, rentrait en réa, je savais quand il sortait, après, je savais plus rien. Les autres services ne communiquaient pas. Maintenant, ça a changé. Il y a des jeunes médecins qui sont arrivés, qui utilisent l'informatique, je commence à recevoir pour la première fois cette semaine des dossiers informatiques de la PHP qui fonctionnent avec la messagerie apicrypte que vous connaissez, que je les reçois, je les intègre directement dans le logiciel métier. Ça marche au poil. Donc, on peut penser que ça va peut-être enfin démarrer. Mais pour démarrer, il faut que ce soit facile.
On va noter cette phrase, Jean-Paul Hamon.
Non, mais attendez. Moi, j'ai toujours pensé que le DMP est une bonne chose. Mais quand Douste Blasi nous dit 3,5 milliards d'économies, etc., demain, on se dit, c'est un genre de flûte de première. Donc, si vous voulez, c'est non, mais attendez.
Depuis un bail.
Juste un point, docteur Hamon. Il ne faut pas que vous raisonniez, même si c'est très légitime en tant que médecin, vis-à-vis du DMP, comme étant un truc entre médecins. Bien sûr que vous échangez l'information par messagerie sécurité de santé, et tant mieux. Le DMP, je pense, est aussi une manière de rendre disponible cette information pour des professionnels de santé, des soignants qui, tout d'un coup, prennent en charge un patient. Mais ne perdez jamais de vue que le DMP, il permet aux patients d'accéder à leur information. Et si vous dites... Moi, ma conception de l'information du patient, c'est 5 lignes de synthèse dans la carte vitale et c'est tout. C'est un peu court en termes de conception de cette transparence, cet accès qui est assez naturel, qui est une attente des patients que de pouvoir retrouver leur information.
La difficulté de tous les gens qui nous gouvernent depuis 14 ans, c'est qu'ils ont voulu construire, avec le DMP, ils ont voulu construire une cathédrale. Mais ils ont commencé par la flèche. Hein? Et donc, on est en train de subir ce qui s'est fait en 2004. Donc là, je peux vous dire qu'il faut avoir des choses simples. Quand je dis que le patient, je regrette, hein, c'est pas seulement le volet de synthèse, mais quand vous voulez retrouver un scanner et que vous êtes en train de chercher dans le grand sac, j'ai croisé l'autre jour à l'hôpital quelqu'un qui se trimbalait avec son dossier médical. J'étais impressionné. C'était dans un caddie.
Vous avez raison, Jean-Paul Hamon. J'entends ce que vous dites encore une fois parce qu'on est tous patients. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas chercher un peu sur un dossier informatique plutôt que de refaire refaire le scanner parce qu'il n'y a pas trace du scanner qui a été fait précédemment.
On est quand même plus mûr qu'en 2002 ou 2004 sur le numérique, là, aujourd'hui.
On est tout à fait d'accord, mais on a le sentiment qu'à la Caisse d'assurance maladie, ils soient pas
mais
trop
non,
mûrs.
Vous savez, c'est-à-dire la Caisse d'assurance maladie, nous, elle est consciente qu'il y a encore du chemin. Vous voyez, on commence, là, on lance le DMP, on invite les patients à le créer, on amène avec 2 années de remboursement, ce qui ne suffit pas comme information médicale. Après, le DMP décollera, si vous me permettez cette expression, si tout le monde joue le jeu. Si les établissements hospitaliers l'alimentent de leur compte-rendu d'hospitalisation, si les médecins généralistes l'alimentent de leur volet de synthèse médicale, etc., etc., etc. Parfois, vous parlez des logiciels, ils ne sont peut-être pas tous parfaits. Donc, on va évidemment les améliorer. Mais je pense que c'est un chemin de progrès sur lequel il faut qu'on s'engage tous.
Je voudrais qu'on retourne au standard. Alléluia. Parce qu'il y a des questions très précises et notamment celle de Claire-Élise. Bonsoir Claire-Élise.
Bonsoir, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, allez-y.
Alors moi j'ai 2 questions très précises. La première c'est que depuis quelque temps il y a des hôpitaux qui sont piratés avec des demandes de rançon sur des clés de cryptage sur les dossiers médicaux. Donc il faut savoir quand même que le DMP va receler des informations très intéressantes pour les mutuelles, pour les banques. Quid de la sécurité si déjà des services, des messageries sécurisées comme celles des hôpitaux peuvent être piratées et cryptées avec demande de rançon. Et ma deuxième question, je suis une femme, j'ai un dossier gynéco et j'ai pas particulièrement envie que n'importe qui, un médecin aux urgences, puisse ouvrir mon dossier gynéco. Exemple, si j'ai fait une IVG ou que j'ai eu une interruption médicale de grossesse ou que j'ai suivi un traitement PMA, je n'ai personnellement aucune envie, parce que je fais une syncope dans la rue ou parce qu'on m'opère des amygdales, que le médecin puisse ouvrir mon DMP et avoir mes historiques gynécologiques. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ouvre pas de DMP actuellement, parce que pour moi, c'est rédhibitoire.
Claire-Élise, voilà. Merci beaucoup, parce qu'on voit là des questions effectivement très concrètes et de bonnes questions. Je voudrais qu'on commence par la dernière. Alors, est-ce que j'ai le droit de choisir ce que je mets à l'intérieur de mon dossier médical ? Partager.
Il y a certaines informations médicales et précisément tout ce qui porte sur des IVG, une procréation médicale assistée, font partie de ces informations sur lesquelles le patient est libre de dire « je souhaite ou je ne souhaite pas que cela figure dans mon DMP ». Il peut le dire au moment où l'information est versée. Et puis s'il ne le dit pas au moment où l'information est versée, il peut à tout moment masquer cette information. Il la masquera à tous les professionnels de santé, sauf un qui est son médecin traitant. Voilà. Ça, c'est la loi qu'il a établie. Voilà. Donc, c'est une garantie au moment où l'information, l'acte est réalisé. Et ensuite, s'il y a un droit au remords en disant « je veux masquer cette information, je veux, ou alors je veux que tel professionnel de santé ne puisse pas accéder à mon dossier médical partagé ou à une partie de mon... »
On peut choisir qui accède. C'est-à-dire, le médecin traitant accède forcément, mais ensuite...
À tout. Mais après, on peut dire, tel médecin, je ne souhaite pas qu'il me suit, je ne souhaite pas qu'il accède à telle partie de mon dossier médical partagé.
Mais alors, par exemple, si elle se retrouve à l'hôpital, Claire-Élise, quand on ouvrira son dossier médical partagé...
Si elle a masqué cette information...
Il faut qu'elle ait masqué l'information.
Si elle a décidé que cette information ne figurerait pas dans cette DMP, l'information n'y est tout simplement pas. Et si elle a masqué cette information sera invisible, y compris en cas d'urgence. D'accord ? Ensuite, deuxièmement, la question de la sécurité des données et des risques, entre guillemets, de vol de données est une question sérieuse.
Ouais, bien sûr.
Et qui est un vrai risque pour toute institution qui gère des données et a fortiori des données de santé. L'assurance maladie gère des données de santé.
Comment vous allez faire pour masquer ce que la patiente ne peut pas mettre? Comment vous allez faire?
Il y a tout un travail qu'il faut faire avec vous à votre cabinet sur
j'aimerais bien que vous répondiez à ce truc-là parce que c'est important quand même. Comment vous allez faire pour masquer aux autres ce que la patiente a décidé de cacher aux autres médecins?
Oui, non, mais il y a une fonction.
Alors là, moi, je suis vachement intéressé parce que quand vous dites que le DMP va être ouvert à tous les autres professionnels de santé, ça fait combien de personnes qui vont avoir accès au dossier? Et à quoi ils vont avoir accès? C'est-à-dire, moi, je me suis tapé pendant 4 ans tous ces gens qui de 2004 à 2008, tous ces gens qui voulaient participer au DMP, etc. Il faut limiter l'accès, c'est-à-dire que l'infirmière ne peut pas avoir accès à tout, le kiné n'a pas le droit d'avoir accès à tout, le podologue encore
après,
moins.
Après, le patient donc, a si la voulez... main sur ce qu'il met.
Je peux répondre. Premièrement, oui, il y a une fonction de masquage. On dit cette information, je la masque, c'est le patient qui coche et l'information est masquée. Donc c'est très simple.
Ça existe déjà.
Ensuite, deuxièmement, n'importe quel professionnel de santé ne peut pas accéder au DMP de personnes qu'ils ne soignent pas. La loi indique que pour accéder au DMP d'un patient, il faut requérir son accord. D'accord ? Donc moi, si je me dis, tiens, vous êtes Jean-Paul Hamon, on dit, tiens, j'aimerais connaître le DMP de Nicolas Revel, vous n'avez pas le droit de le faire. Et quand un médecin, mettons Jean-Paul Hamon, devait ne pas résister à cette curiosité et aller sur le DMP de Nicolas Revel, Nicolas Revel est instantanément notifié de ce que Jean-Paul Hamon a accédé à mon DMP.
J'ai pu y accéder, vous le savez, mais j'ai pu y accéder. Non mais attendez.
Été coché, moi j'ai compris que si ça n'a pas été coché, effectivement, vous pouvez y accéder. Donc il ne faut pas oublier de cocher.
N'importe quel professionnel de santé, que ce soit votre médecin traitant ou n'importe qui accède au DMP d'un patient, celui-ci reçoit une information disant tel professionnel de santé.
Sauf que ça a été ouvert. Pour le coup,
voilà, oui, mais donc, il a une responsabilité, le médecin, mettons que ce soit un médecin. Il ne peut le faire, et ça c'est une obligation juridique, et il ne peut le faire que s'il a recueilli l'autorisation du patient. Donc s'il s'assoit sur cette obligation, il s'expose évidemment à une sanction qui est celle d'un manquement
et d'obligation. Vous à moi, dans la conception du logiciel, moi, à votre place, j'aurais fait l'inverse, c'est-à-dire cocher quand on autorise, au lieu d'avoir à cocher quand on n'autorise pas. C'est-à-dire que d'emblée, personne n'y a accès, sauf si on autorise, au lieu de faire l'inverse. Je dis ça, je dis rien, mais la logique
La loi a inversé cette logique-là, mais la loi a prévu qu'aucun soignant, on va dire soignant, c'est pas que des médecins, ne peut ouvrir le DMP d'un patient s'il n'a pas en recueilli son accord.
Rapidement, pouvoir retourner au standard, j'en parle.
Non, mais ça, vous dites, on pense pas aux patients. Et moi, je regrette, je pense à sécuriser sa prise en charge et je pense surtout à protéger ses données. Hein, à protéger ces données. Et là, quand on dit qu'on va permettre à tous les professionnels de santé d'accéder au DMP, une des grandes discussions s'était tenue, hein, c'est-à-dire il va falloir que l'accès au DMP, il y a certaines choses doivent être accessibles, mais pas tout. Ça dépend du professionnel de santé. Un podologue, c'est important qu'il sache que son patient est diabétique, mais effectivement, il a rien à savoir sur le passé gynécologique de la personne qu'il a. Vous voyez, donc ça, c'est tout ça, c'est extrêmement complexe de donner des droits d'accès qui sont limités, etc. Là, on est en train d'ouvrir.
Est-ce qu'il peut y avoir un niveau de droit d'accès ? Parce que, comme le dit Jean-Paul Hamon, effectivement, on connaît les allergies, mais pas le passé gynécologique, par exemple. Certaines infos, oui, en fonction de ce qu'on a besoin de savoir du patient.
Il y a une grille d'habilitation qui spécifie profession de santé par profession de santé à quoi pharmacien, kiné, infirmière, pédicure, podologue peut accéder comme information au sein du DMP. Et puis, si un pédicure podologue, mais on ne va pas faire une focalisation sur les pédicures podologues,
c'était l'exemple.
Bon, qui voudrait accéder au DMP pour un soin plantaire simple, on peut très bien dire, écoutez, non, je ne vois pas très bien pourquoi vous voudriez accéder à mon DMP. Vous n'en avez pas besoin.
Il faut savoir s'il a de l'artérite ou du diabète.
Le DMP est accessible dès lors qu'on met la carte vitale dans la machine et comme on donne toujours sa carte vitale au médecin.
Il faut que, lorsque un professionnel ouvre le DMP, il demande à son patient, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'ouvre votre DMP? Voilà. Et quand il l'a ouvert, le patient reçoit une notification parce qu'il y a bien eu une connexion. Et donc, si à un moment donné, il n'a pas donné son accord, il peut à ce moment-là se retourner vers le professionnel de santé pour dire, vous avez accédé à mon DMP, je ne vous ai pas donné mon autorisation.
Allez, Jean-François, bonsoir. C'est vous le dernier, Jean-François.
Ah ben merci, bonsoir. Je dirais que je suis un peu navré de votre discussion parce que ça fait des années qu'on entend parler du dossier médical partagé. Je travaillais dans les années 90 chez un constructeur informatique dans le domaine de la santé. Et déjà, on informatisait des hôpitaux, on informatisait des médecins, on informatisait des laboratoires, on informatisait dans les années 90. Et déjà, le problème se posait, et M. Douste-Blazy, déjà à l'époque, avait soulevé le problème. Il n'y a jamais eu une volonté vraiment politique de forcer les professionnels à partager l'information. Et ça, ça a été une gabegie financière pendant des années. Imaginez, les années 90, on est en 2018. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ce sont en permanence des guerres de clochers. Les problèmes de sécurité que vous avez évoqués, qui accède à quoi, a déjà été évoqué, a déjà été résolu depuis très longtemps. Or, aujourd'hui, on revient dessus en disant « Ah, mais attendez, qui va accéder à quoi ?» C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, on parle de télémédecine, on puisse envisager la télémédecine sans avoir de dossier partagé. Et je pense à tous mes concitoyens qui sont dans des zones reculées. Et aujourd'hui, il est impératif qu'on mette en place ce type de technologie
au plus tôt et qu'on ait la volonté politique de le faire.
Jean-Paul Amons, merci beaucoup de votre témoignage, Jean-François. Jean-Paul Amons, si demain on vous impose en vous disant il faut que chacun y mette du sien, ça veut dire vous les médecins, ça veut dire l'hôpital, ça veut dire tout le monde en fait, autour de ce dossier médical partagé, vous réagiriez comment ?
Mais on a besoin de rien m'imposer, si vous voulez. C'est le ce qui est désespérant, c'est ce qu'il dit. Regardez l'hôpital de Nancy qui a complètement dématérialisé ses courriers, qui communique avec les médecins autour de l'hôpital uniquement par mail sécurisé. Il économise 250 000 euros par an. D'accord. L'APHP, qui a la possibilité de communiquer avec l'ensemble des médecins d'Île-de-France depuis 2002, parce que je leur avais installé un proxy à 2000 euros, hein, et 2000 euros. D'accord. C'est pas un avion, moi. Et ça marchait. J'avais la preuve que ça marchait. L'APHP n'écrivait pas. Là, il commence à écrire. Vous imaginez si l'hôpital de Nancy économise 250 000 euros par an, ça fait 5 emplois d'infirmières. Imaginez que l'hôpital public parisien se mette à écrire à l'ensemble des médecins d'Île-de-France, regardez combien on va faire d'économies. Donc, ça, pour nous, c'est capital. En plus, ça sécurise, si vous voulez. On intègre ça directement dans le dossier du patient. Il a fallu 4 ans pour que les pontes du DMP, on devait être rendus au 5e directeur, c'était Dominique Coudreau, reconnaissent publiquement en 2008, Jean-Paul, tu as raison, il faut que les médecins communiquent entre eux par messagerie sécurisée, devant témoins. Hein. Il y avait ce jour-là, il y avait la demi-finale de Coupe du Monde contre le Portugal. Hein. je m'en souviens encore. Et donc 4 ans pour reconnaître ça. Depuis, ça fait 14 ans que ça dure. Alors ça a un peu évolué, c'est vrai. Nous, on n'est pas du tout opposés, mais qu'on vienne pas nous imposer d'alimenter un machin qui n'est pas simple d'utilisation et qu'on peut pas consulter rapidement. Ça, c'est premièrement. Et qu'on vienne pas nous demander, comme j'ai été obligé de le faire, de payer 450 euros plus, machin, etc., pour pouvoir accéder au DMP. Donc,
Un petit mot.
Pour conclure, Nicolas,
moi, je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait plus d'échanges par messagerie entre hôpitaux et médecins. Et d'ailleurs, comme vous le savez, on a l'assurance maladie beaucoup fait pour favoriser cela. Et ça a bien progressé au cours des deux dernières années. Mais d'abord, les médecins, les patients, ils bougent. Ils ne restent pas uniquement dans Nancy et autour, ou dans Paris et autour. Donc, il faut à la fois que l'information circule entre l'hôpital et les médecins traitants, mais il faut aussi que cette information elle arrive dans le DMP, parce que c'est le DMP du patient. Et le patient, il a envie d'avoir cette information, et ensuite, il circule. Il ne reste pas uniquement assigné à résidence dans sa commune ou dans son territoire. Donc, les deux sont complémentaires.
Il fallait peut-être le rendre obligatoire, alors, pour les patients comme pour
non,
les
Non, je crois que c'est... Enfin, en tout cas, c'est pas du tout le parti pris qui a été retenu. Il faut que ce soit un choix.
Et d'ailleurs, l'obligation fait peur à certains, puisque dame qu'on a pas eu dans le monde qui s'appelle Odile et qui nous dit moi, je comprends rien à l'informatique, Internet, c'est pas mon truc, donc c'est compliqué. Effectivement, on aura le même problème avec ça qu'avec la feuille d'impôt qui a eu du mal aussi à s'imposer. Mais voyez, on y est venu, c'est comme tout. Merci à tous, en tout cas, de votre participation, comme d'habitude, au téléphone sonne. Merci à tous autour de la table et portez-vous bien.